Bonjour et bienvenue dans cette seconde session de Club Musique dédiée ni plus ni moins à la discographie de Laurent Voulzy.
Et oui, le premier épisode c'était Leonard Cohen, maintenant Laurent Voulzy, j'aime bien ce jump.
Ouais, là on peut vraiment parler de grand écart. Après une étude approfondie de l'œuvre de Leonard Cohen, là, on passe sur une étude approfondie de l'œuvre de Laurent Voulzy.
Un mec qui mérite autant... qui a un point commun pour moi avec Leonard Cohen, c'est que l'arc de sa discographie est hyper intéressant, autant que les morceaux individuels.
Ouais, tout à fait, on va y revenir. Je suis toujours Martin Gamera et je suis toujours accompagné de Judah Warski.
Eh oui, salut Martin, merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau pour faire un deuxième podcast avec toi, j'ai pris énormément de plaisir à faire le premier.
Ah bah écoute, moi aussi, c'était vraiment cool, c'était génial de parler autant en détail de la discographie de Leonard Cohen. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que après avoir parlé de Leonard Cohen, qui, alors même si avec sa période synthé, on sait qu'il a eu un côté un peu plus varié, qui a pu en agacer certains, mais peu importe, je suis très content de parler d'un artiste aussi indé et réputé qu'est Leonard Cohen à un moment donné, et parler d'un autre artiste beaucoup plus mainstream, qui est Laurent Voulzy, maintenant, et qui même s'il est mainstream, on l'aime et on a envie d'en parler, quoi.
Ouais, mais surtout parce que évidemment le but, ça va être de vous présenter des trucs que peut-être vous connaissez pas déjà. En fait, moi, honnêtement, mon but dans cette émission, c'est genre, vous croyez que vous connaissez Voulzy, mais en fait, vous connaissez pas vraiment Voulzy.
Alors moi, mon but, il est plus simple, c'est vous croyez que vous connaissez Voulzy ? Bon, peut-être que vous connaissez vraiment Voulzy, mais on va vous faire découvrir des trucs que sans doute vous connaissez pas ou auxquels vous n'avez pas forcément prêté l'oreille. Et même ceux que vous connaissez, on a envie de vous en parler, de vous expliquer pourquoi, comment, et peut-être vous essayer d'essayer de vous aider à comprendre pourquoi vous aimez ça.
Ouais, effectivement, c'est ça aussi qui est génial avec Voulzy, c'est que même les morceaux mainstream que tout le monde connaît, que tout le monde aime, ils sont mortels aussi, on les adore aussi. On prétend pas vous aider à les comprendre, hein. Évidemment, vous les comprenez déjà, vous les connaissez, et même si vous pensez que vous les aimez pas, je suis sûr que vous les aimez bien, en vrai. Enfin, je sais pas, il est facile à aimer, Laurent Voulzy.
Il est facile à aimer, ouais, je suis d'accord.
Il est sympa, avec ses lunettes, avec le swag de Laurent Voulzy. S'il y a un mec sur Terre qui a le plus le swag de Laurent Voulzy...
Bah c'est quand même Laurent Voulzy.
Ouais, exactement.
On a décidé de consacrer 3 épisodes à la discographie de Laurent Voulzy. On ne s'est pas facilité la tâche, parce qu'on a voulu faire 3 épisodes sur 3 thématiques différentes.
Ouais, Cohen, on l'avait fait...
On l'avait fait chronologique.
Et là, on s'est dit, on va plutôt prendre des thèmes. Et j'adore le thème de ce premier épisode. dans les notes qu'on s'envoyait tous les deux avant pour préparer, on l'appelait Space Voulzy.
J'aime beaucoup ce titre, Space Voulzy. Alors, ça me fait penser à. Moi, quand tu me dis Space Voulzy, ça me fait penser à Space Godzilla. Parmi les très nombreux, les 30 et 35 Godzilla, il y en a un où il y a un autre Godzilla qui vient de l'espace. Ben là, c'est un peu la même idée, quoi.
Exactement, il y a un autre Voulzy qui vient de l'espace.
Voilà, il y a un autre Laurent Voulzy qui vient de l'espace que vous connaissez sans doute pas. Donc, pour ce premier épisode, on va vous parler de l'étonnant Laurent Voulzy, le Laurent Voulzy de l'espace, celui que vous connaissez pas forcément, ou que vous connaissez, mais auquel vous n'avez pas suffisamment prêté attention. Deuxième épisode, on vous parlera de Laurent Voulzy dans les années 80. C'est une période assez incroyable de sa part et on estime que ça vaut le coup d'en parler.
C'est à la fois la plus connue et en même temps la plus intéressante à décortiquer.
Et pas la moins étonnante en plus. Et le troisième épisode, ça sera un peu le All Star Voulzy, ça sera l'épisode où on va pousser les potards à 11 et on va parler de... sera le feu d'artifice.
On va parler de tout ce dont on n'a pas pu parler. Parce que le deuxième, il y a aussi... Quand on préparait l'émission et qu'on s'envoyait des morceaux et qu'on essayait de les ranger dans des cases, il y a eu Space Voulzy et dans le deuxième épisode, il y aura Based Voulzy.
Based Voulzy, exactement.
On ne vous en dit pas plus pour l'instant, vous écouterez le deuxième épisode pour voir de quoi ce que ça veut dire.
Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, Laurent Voulzy a connu succès à l'âge de 29 ans avec Recollection. Alors, 29 ans, c'est, suivant comment on se place, ça peut être tôt ou tard pour avoir le succès. Mais en tout cas, avant ses 29 ans, il a fait plein de choses.
Il a galéré comme un fou.
Et je pense que ça joue pour beaucoup dans, après, la carrière qu'il a eue. Le fait qu'il ait eu toutes ces années de vache maigre... où il a testé tout un tas de choses avant de percer, je pense que ça a joué pour beaucoup sûrement dans sa comment dire, ça l'a sûrement aidé à conserver son envie de faire plein de choses après.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas pensé comme ça. Mais il a sorti plein de trucs, notamment des librairies. On dit qu'il a fait des BO de porno. C'est faux, en fait, il a fait des librairies qui ont été utilisées dans des pornos. Enfin, après, bon, je sais pas.
Les librairies, tu peux expliquer ce que c'est, du coup?
Ah oui, pardon, les listes de librairies, c'est quand des éditeurs signent un compositeur auquel ils croient. Mais en dehors de sortir des disques pour le commerce, ils lui font faire des instrus, des machins qui peuvent servir comme BO. Qui sortent sur des disques qui sont pressés hors commerce, qu'ensuite ils envoient à toutes les boîtes de production, afin que les boîtes de production, pour leurs films, leurs documentaires, leurs trucs où ils n'ont pas les moyens de commander une BO qui payeront de leur poche, studio, etc., ils peuvent acheter des morceaux déjà faits. Donc vous Woolsey a fait des trucs comme ça, et voilà. Bon, après, en préparant l'émission, j'ai voulu aller voir ces films porno, et j'ai pas réussi à les trouver.
T'as voulu aller voir les films porno de leur Woolsey?
Non, je les ai pas trouvés, donc je peux pas vraiment
juger de leur qualité.
Non, malheureusement. Non, mais par contre, voilà, on dit qu'il a fait des BO de films érotiques ou porno, c'est pas exactement vrai.
Ouais,
alors, il a fait des librairies qui ont été utilisées dans des pornos et des érotiques. Mais tout ça pour dire que c'était les vaches maigres. Mais parmi les trucs qu'il a fait dans cette période-là, il a sorti plein de 45 tours, parfois avec des différents groupes. Et RCA, qui l'ont donc signé, croyait vraiment en lui. Ils l'ont collé comme arrangeur sur un album d'Henri Salvador, Salvador 77, un album connu des fans d'Henri Salvador. Et donc parmi tous ces trucs chelous qu'il fait en tant qu'arrangeur ou machin, il se retrouve comme producteur-arrangeur d'un morceau de Anne-C. Sheridan qui s'appelle « I Want You ». Et qui est en fait une reprise en disco d'un morceau des Beatles, I Want You. C'est vraiment une bizarrerie. Moi, honnêtement, j'aime pas spécialement ce track. Mais la raison pour laquelle je veux le passer, c'est parce que ça éclaire d'une manière hyper bizarre ce qu'il va faire ensuite. Il adapte un morceau des Beatles en disco, parce que c'est les années disco, et il choisit ce morceau-là, I Want You, un des morceaux les moins représentatifs des Beatles. C'est un morceau de Lennon, déjà, on imagine que Woolsey, il est plus McCartney que Lennon.
Ouais.
Et c'est un morceau hyper heavy, un peu badant.
Ouais, ouais.
Et surtout avec ce truc bizarre dans le morceau des Beatles, c'est que genre, à partir de genre 4 minutes, en fait, il se passe plus rien. C'est juste le riff qui est répété en boucle pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, c'est juste le riff en boucle. Et c'est comme ça, c'est une boucle. Ce qui est hyper bizarre à l'époque, surtout pour les Beatles, hyper moderne, parce qu'évidemment aujourd'hui, dans la musique d'aujourd'hui, la boucle c'est presque un truc donné, quoi. Et c'est hyper marrant que Woolsey ait choisi ce morceau-là des Beatles à adapter, et pas, tu vois, pas Let It Be, enfin, tu sais ce que je veux dire, pas Obladi Oblada. Et pour moi, ça éclaire ce qu'il fera par la suite, quoi.
Je me souviens plus de sa rencontre avec Anne Sheridan. Enfin, je l'avais lu, mais bon, je crois que c'est à Londres quand il faisait des allers-retours à Londres et
ouais,
il a travaillé sur le disque Pop English dont on va parler. Mais
bon, en fait, pendant toute cette période vache maigre, il y a eu plein de 45 tours sortis sous des noms de groupes qui étaient des groupes bidons.
Oui, oui.
Mais elle était toujours dedans et d'ailleurs, elle est restée dans les chœurs, même dans les disques des années 2000. Elle est encore là à faire les chœurs.
Ouais.
On passe à Spaceships on the Moon.
Thank you.
Là, c'est un truc, c'est vraiment bizarre.
Ah bah, c'est Space Woolsey, hein. Space Woolsey, Spaceship on the Moon.
Donc, il s'est retrouvé, on sait pas trop comment, à faire la musique sur des disques qui servaient à apprendre l'anglais aux enfants, ou peut-être aux adultes, on sait pas trop.
Ouais.
Et donc, ça s'appelle Pop English. C'est une série de 4-45 tours, où c'est des chansons, où les paroles, c'est genre « Where is Brian ?» Brian's in the kitchen. Et au volume 3, on sait pas ce qui se passe, il part complètement en couille. Et dans le volume 3, le thème c'est l'espace, et du coup, genre les phrases à traduire, c'est des trucs du genre l'astronaute est assis sur une chaise dans un arbre.
Alors je précise que tu l'as sous les yeux.
Oui, oui, je le lis là.
Non, et c'est pas rien quand même, parce que c'est.
L'homme de la lune embrasse l'homme, il lui donne des bouquets de cœur. Dans un cœur, il y a les étoiles et le ciel. Dans un cœur, il y a le soleil. Dans un cœur, il y a le sourire d'un enfant et beaucoup d'amour. Les astronautes cueillent des fleurs et des cerises qui poussent sur les arbres. La Terre est grosse et bleue, si grosse et bleue dans l'espace. Les astronautes sont sur la Lune pour cueillir des fleurs d'argent sur la Lune, pour cueillir des cerises de diamants sur la Lune. Alors moi, j'ai envie de savoir à quel moment de ta vie t'as besoin de savoir dire ça en anglais. C'est un truc pour...
Peut-être dans les années 70, c'était utile.
Bah ouais, là, clairement, le truc, c'est genre, si tu rencontres des Anglais, tu prends du LSD avec eux, voilà les phrases que tu pourrais avoir besoin de savoir dire. Là, c'est sur le volume 3, c'est le volume 3, quoi. Donc, ça veut dire que dans les volumes 1 et 2, ils ont fait le tour de tous les autres trucs. Et dans le 3, on parle de ça, quoi. Il y a des astronautes sur la Lune avec des fleurs d'argent.
Ah, en même temps, dans les années 70, les enfants regardaient Barbe à Papa. Donc,
Ouais, c'était une autre époque. D'ailleurs, oui, effectivement, j'ai le 45 tours sous la main
Avec le livret, du coup.
Avec le livret, les illustrations sont hyper belles. Je pense que sur le site, on va prendre des photos, on va les.
Ouais, ouais, carrément.
On va les caler. Mais du coup, donc le niveau de OSEF, de l'excuse de base qui était d'apprendre l'anglais, ce disque est sorti sur Barclay d'ailleurs, pas sur RCA qui était donc son éditeur.
Ouais.
En fait, il a vraiment volé l'argent de Barclay pour faire ce qu'il voulait.
Mais il est même pas. Enfin, si, il est vaguement. Est-ce qu'il est crédité dessus? Je sais même plus.
Ouais, c'est écrit sur la pochette.
Ah oui, c'est quand même écrit.
De Laurent Voulzy.
Ouais.
Et le niveau de OSEF est tel qu'il y a même une version instrumentale d'un des morceaux Space.
Ouais.
On va en mettre un extrait dans l'émission, on est obligé, parce que le truc est pas sur Spotify, il est pas sur YouTube, il est pas sur Internet, c'est une vraie rareté.
La version instrumentale.
Ouais, c'est une vraie exclue.
Parce que le Pop English, vous pouvez le trouver sur Spotify pour le coup. Il est dispo sur Spotify. Alors bon, vous pouvez l'écouter. vous êtes enfin, ça s'écoute quoi, ça se découvre.
Ouais, non, mais en plus ce qui est marrant c'est qu'il a pas un bon accent, il accentue pas bien les mots. Donc vraiment, si t'apprends l'anglais avec ça, tu vas mal parler anglais. C'est vraiment un prétexte pour faire ce morceau Space, quoi.
Alors ouais, petite parenthèse, là ces morceaux dont on parle, c'est des morceaux qui datent d'avant 77, donc 77 c'est un peu le...
C'est la bascule.
Voilà, c'est la bascule, et puis c'est un peu l'année zéro de la vraie carrière. Enfin, la vraie carrière. C'est pas pour dénigrer ce qu'il a fait avant, mais c'est juste qu'avant, ce qui est étonnant, c'est qu'il se cherchait artistiquement et il avait pas de succès. Et même quand on écoute ça rétrospectivement, il y a des trucs qui sont intéressants, mais c'est pas encore le Laurent Voulzy qu'on aime vraiment et qu'on a après, quoi.
Ah, mais clairement, moi qui suis méga fan et qui ai vraiment squatté, raclé tout ce qu'il a fait avant parce que je suis fan et que je voulais voir. Effectivement, je veux dire, le succès commercial est arrivé en même temps que le succès artistique.
Ouais, ouais, ouais.
Rock Collection, c'est la bascule à tous les points de vue. C'est aussi la rencontre avec Soussan, évidemment,
ouais, ouais.
Qui lui écrit un texte qui défonce.
Alors, on vous racontera l'histoire.
On le garde pour une autre partie.
La Sushi Volzon Connection, on vous en parlera plus tard. Mais oui, oui.
Et du coup, les morceaux dont on va parler maintenant sont d'après la bascule, où là, maintenant, ça y est, il a un peu plus confiance en lui. En fait, c'est un mec, c'est ça, il avait juste besoin d'avoir un succès pour pouvoir. Avoir confiance en lui, en ses qualités de compositeur, de chanteur, de tout. Et une fois qu'il a eu le succès, il était plus à l'aise.
Ouais.
Et plus il est à l'aise, et plus ses morceaux sont space et goudants et ils traînent. Celui dont j'ai envie de parler maintenant, c'est sur le premier album, Cœur Grenadine.
Ouais.
Un album porté par le single Cœur Grenadine, chef-d'œuvre dont on parlera dans l'épisode d'après.
Qui sort après la vague de fond Rock Collection.
Et qui sort dans tous les pays, parce que Rock Collection a été un succès dans tous les pays, dans plein de pays du monde. L'album Cœur Grenadine sort dans plein de pays du monde. Donc le single Cœur Grenadine, mais un morceau d'album que j'adore dessus, c'est Cocktail chez Mademoiselle.
Ouais.
Et moi, je le range dans le Space Woolsey. En vrai, il est pas très space. C'est vraiment un... C'est du yacht rock, en fait.
Alors, comment tu définis le yacht rock, du coup ?
Bah, ça ressemble énormément à Steely Dan.
Ok.
Cette musique californienne hyper propre. Genre, tellement propre que ça en devient hyper cocaine, hein, en gros.
Ouais.
Mais tellement propre, que c'est tellement brillante, clinquante, que ça en devient... Je t'en prends plein les yeux. C'est un délire, hein, le yacht rock. C'est vraiment un truc qui... À l'époque, il avait énormément de succès, mais qui était considéré comme ringard.
Mm.
Et du jour où des mecs sur YouTube ont fait une série YouTube qui s'appelait Yacht Rock, et donc ils ont juste donné un nom à ce genre de musique, ils l'ont appelé Yacht Rock. Et tu sais, parfois il suffit de donner un nom à un style pour que soudain tu l'aimes bien. C'est ce qui s'est passé pour plein de gens avec le Yacht Rock.
Mais c'est ce qui est très drôle avec, avec ça, c'est que je te dis, je te demande, je te pose la question, comment tu définis Yacht Rock, mais en fait en le disant, tu sais, c'est comme surf music, quoi. Tu sais, c'est dans, voilà. Tout est dans le nom, en fait. Yacht Rock, ouais, ok,
exactement.
C'est la musique
à
écouter sur
expliquer.
Un yacht. Ouais, je vois, ok. Si je suis sur un yacht, c'est exactement ça que je voudrais mettre.
Ouais, ouais, costard blanc.
Ouais.
Et justement, la pochette de Cœur Grenadine, il est en costard blanc. La pochette de l'album est géniale.
Ah oui, oui.
Il est sur fond rose avec une espèce de palmier derrière lui, genre c'est les îles. Mais en fait, l'album est un gatefold, et quand t'ouvres le vinyle, t'as la même photo mais juste prise de un tout petit peu plus loin,
ouais.
Où là tu vois qu'en fait il est dans un studio de merde et que la plante est une plante en pot avec deux pauvres lumières sur lui.
Elle a un côté telenovela, la pochette, c'est
mais,
assez curieux,
mais assumé. Et,
ouais.
Et même si tu doutes que c'est assumé, quand tu ouvres le gatefold et que tu vois la photo intérieure, tu vois que c'est assumé. En fait, ce côté, le swag de Laurent Voulzy, il sait qu'il l'a et il le cultive. Alors, et donc, ce morceau, Cocktail chez Mademoiselle, ouais, il est très costard blanc avec les manches retroussées, quoi.
Ouais, ouais, sur la musique, ouais.
Ouais, il est genre, moi je l'adore, il est. Mais ce qu'il rend space, c'est le fait que ça raconte une petite histoire. Ça y est, maintenant il y a sous-son aux paroles, donc ouais. Les paroles elles sont nickel. Et ça raconte une histoire avec un début, une fin, etc.
Ouais.
La meuf qui veut pécho, et du coup il va à sa soirée, et en fait il est mal à l'aise parce qu'à sa soirée il y a des gars, alors que lui c'est un petit gars, c'est Laurent Voulzy. Dans toutes ses chansons il est comme ça.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le personnage qu'on retrouve.
Il se sent pris de haut par tout le monde, ça se trouve ils le prennent même pas de haut, c'est lui qui les prend de bas.
Ouais.
Mais en tout cas voilà, il est mal à l'aise chez eux, mais. La chanson a une fin heureuse, à la fin tout le monde se casse petit à petit, comme ça arrive dans les soirées d'appart, et ils se retrouvent plus que tous les deux, et là le morceau continue en instrumental. Et ça dure, je l'ai noté, ça dure 2 minutes, il y a 2 minutes d'instru, mais c'est pas une instru genre il y a un solo de sax, non, c'est vraiment l'instru, et il se passe rien, c'est du rien musical.
Bah c'est du rien, mais qui veut dire quelque chose du coup dans le contexte de la chanson.
Bien sûr. Et c'est là que toi t'imagines, c'est là que l'histoire s'arrête telle qu'elle est racontée, que toi tu l'imagines. Et c'est, pour moi c'est ça le Space Woolsey.
Bah c'est comme dans un film où tu vois une action qui commence à se dérouler et que la caméra tourne et filme autre chose, quoi.
Exactement, le hors-champ, voilà. On sait tous que c'est...
Bon, l'exemple le plus malheureux qui me vient en tête c'est Kitano avec... avec la fin de Hanabi, mais là c'est beaucoup plus joyeux, quoi.
Ouais, non, ouais, en fait c'est un peu comme dans ces films époque Code Haze, justement, où le mec embrasse la meuf et là la caméra elle monte vers le haut.
C'est ça, exactement.
Vers un lustre.
Un coucher de soleil, ouais, ou un lustre plutôt. Ouais.
Mais sauf que justement, et là il y a le fondu noir et après on retrouve le matin.
Ouais.
Et sauf que là en fait il n'y a pas le fondu, tu restes sur le lustre pendant 2 minutes. C'est ça qui est space dans ce morceau, ça dure 2 minutes de. Encore une fois, il n'y a pas un solo,
ouais.
C'est vraiment juste l'instru qui continue. Et ce rien musical, cet instru qui continue, qui est hyper goudant, là, c'est hyper moderne, parce que je veux dire, voilà, aujourd'hui on est. J'ai pas envie d'exagérer en disant c'est presque de la techno, mais je vais le dire quand même. Enfin, nous, aujourd'hui, on écoute de la techno tout le temps parce qu'on est des mecs de 2024, pardon. Pour nous, un truc en boucle qui tourne, un stru, c'est normal, mais au moment où lui le fait, un chanteur de variété sur un album, une chanson à texte en plus qui raconte une histoire,
ouais.
Et tout. C'est quand même bizarre.
Ouais, c'est légèrement bizarre parce que quand même, il y a eu quand même beaucoup de trucs bizarres déjà à ce moment-là dans la musique pop et rock, mais comme tu dis, c'est surtout bizarre que ça vienne d'un truc de variété, quoi. Mais en plus, c'est bizarre sans être malaisant, quoi. C'est juste...
Au contraire, c'est incroyablement bien aisant.
Ouais,
c'est méga goudant. C'est vraiment... Moi, pardon, il m'est déjà arrivé de le passer en soirée. Parfois, je fais DJ, c'est hyper rare, mais en tout cas, et tout le monde kiffe. Pourtant, le morceau est lent, il n'est pas spécialement dansant, mais c'est juste, justement, c'est ce côté on fait durer, on fait durer, on fait durer, on fait durer. Et il ne fait pas durer au début, il fait durer à la fin. Comme I Want You des Beatles.
Ouais.
C'est pour ça qu'au début, j'ai voulu passer cette version disco de I Want You, que j'aime pas spécialement. Mais c'était juste pour montrer qu'en fait, je pense que cette chanson, I Want You des Beatles, a traumatisé Laurent Voulzy. Et que c'est un truc qu'il va refaire dans tout le temps. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va voir là, avec tous les morceaux dont on va parler par la suite.
Donc une autre chanson dont on avait envie de parler, c'était Riken, qui est tiré de l'album Bopper en larmes, qui est sorti en 1984, si je dis pas de bêtises. 83, j'étais pas loin, mais... Et qui n'est pas dans Stranger Things, et franchement, pourquoi ?
Bopper en larmes, cet album,
il aurait pu être dans...
Il y a plein de morceaux sur cet album, mais on va en parler.
On en parlera dans l'épisode des années 80.
Ouais, dans l'épisode 2, on va faire un gros truc sur Bopper en larmes.
Mais en fait,
l'album. Mais la chanson Riken, elle rentre dans le côté Space Woolsey, parce que c'est encore la même chose. C'est vraiment une bête de morceaux, super compo, super chanson, super histoire. Les paroles racontent l'histoire de. Il a perdu sa guitare dans un voyage et machin, et du coup il s'adresse à la meuf à qui il s'adresse dans cette chanson, c'est sa guitare en fait. T'es où petite sœur? Dans quel Brooklyn? Chez quel fumeur? Il a égaré sa gratte après un concert à New York, et il se demande où elle est, chez quel fumeur t'es.
Une Rickenbacker.
Et en fait la Riken de la chanson, moi pendant, je l'ai écouté plein de fois en pensant que c'était une Riken, tu vois, une meuf américaine dont il était amoureux. Il avait dû quitter les États-Unis en laissant derrière elle cette femme et machin. Et en fait non, c'est sa guitare qu'il a perdue, sa Rickenbacker.
Ça, c'est vraiment balèze quand même, hein, d'avoir trouvé ça. D'avoir trouvé l'homophonie Riken et Rickenbacker pour... Enfin, Riken pour américaine et Riken pour Rickenbacker.
Bah, c'est d'autant plus balèze que, genre, moi je le sais parce que j'ai lu une interview où il le raconte. Mais en fait, si tu le sais pas, ça marche quand même.
Ah bah oui. Je suis passé à côté,
beau, ouais. Et ouais, et en fait il l'a écrit pas en disant, tu sais, enfin, ouais non, c'est du grand art, l'album Bopper en larmes. Et donc cette chanson, pareil, donc pendant 3 minutes, c'est une magnifique chanson avec une mélodie mémorable, enfin, pure Woolsey. Et après il y a 2 minutes d'instru, comme Cocktail chez Mademoiselle, comme I Want You des Beatles. Mais sauf que là, il va beaucoup plus loin pendant ces 2 minutes d'instru. Genre ça change de clé, il y a des chœurs qui rentrent, qui lancent des nouveaux contre-chants que t'as pas entendu pendant la chanson d'avant. Il commence à vraiment délirer sur le principe en fait de ok, mes chansons, une fois qu'elles sont finies, elles durent en instrumental et ça va devenir un truc qu'il va faire à chaque fois. Et voilà, quand je dis ça, c'est une évidence pour les fans de Woolsey, mais...
Je pense pas que ça soit si évident que ça quand on sait pas plonger en détail dans les chansons de Woolsey. Déjà parce qu'en fait, souvent c'est des chansons qui vont capter ton attention, qui vont capter l'attention à un moment donné sur un truc en particulier.
Ouais, c'est souvent une mélodie, un hook.
Voilà, et puis après, bon, bah, la chanson se poursuit, et elle se poursuit à côté, on n'y fait pas plus attention que ça. Alors qu'en fait, il s'y passe quand même pas mal de trucs discrètement, quoi.
Mais c'est ça pour moi l'objet de cet épisode Space Woolsey, c'est ça son génie, c'est qu'en fait il te fait un morceau de 3 minutes avec des hooks galore, une mélodie que tu retiens pour le refrain, etc. Enfin, comme on sait faire, mais à chaque fois, mais vraiment presque à chaque fois, mais vraiment presque à chaque fois, quoi. Il te le fait durer derrière, il te l'amène au fil de l'eau, quoi. C'est hyper agréable, c'est vraiment un dimanche à la campagne. Tu vois ce que je veux dire?
Ah bah complètement, ouais. Et, mais j'étais en train de, en le disant, je me suis dit, vous le dites, c'est de la musique où il se passe beaucoup de choses. On l'a sous les yeux, il se passe beaucoup de choses et tout le monde s'en rend pas forcément compte. Je trouve que c'est assez, ça décrit bien. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à, aux musiques de Woolsey de manière générale, quoi. Mmh. C'est qu'en fait, tout le monde connaît ça, tout le monde a déjà écouté, tout le monde sait. Enfin tout le monde. En tout cas, dans nos âges, tout le monde a plus ou moins grandi en entendant les chansons de Laurent Voulzy, mais finalement, sans vraiment se rendre compte qu'il y avait quand même quelque chose de caché derrière.
Ah, exactement. Mais en fait, moi, je pense que, à vrai dire, moi, mes parents ne sont pas français. Mm. Voulzy, ce n'est pas du tout lié à mon enfance ou quoi. En fait, j'ai vraiment découvert Voulzy, j'avais 30 ans. Quoi.
Ouais.
Et je pense que c'est pour ça que j'ai une vision différente de tout le monde qui connaît. Mais en fait, moi aussi, bien sûr, évidemment, il y a les gros singles, je m'en souviens, ils passaient à la radio quand j'étais petit et tout.
Ouais.
Mais en fait, on ne le connaît pas vraiment. Quoi.
Non.
Et cet album Bopper Alarm, continuons à en parler, il est tellement space. Sur le même album, il y a Mayenne,
ouais.
Une espèce de tentative dub.
Ah ouais, c'est incroyable ça.
Et de toute façon, l'album Bopper en larmes, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de morceaux qui sont plus que des interludes, des petits trucs de 1 minute 30.
Ouais.
Où il part dans un délire et puis il l'arrête aussitôt pour repartir sur autre chose. C'est son white album. Et Mayenne, c'est ça, c'est une espèce de dub qui dure 1 minute 30. Bon, grosse très sous influence Police. Mm. Tout l'album est sous influence Police, mais Police de la fin, Police Synchronicity.
Ouais.
Police avec les boîtes à rythme. Etc. Ouais. Et moi je trouve mieux que Police personnellement, parce que j'aime pas trop Police, mais c'est vraiment très personnel.
Ah bah alors oui, si tu me demandes, évidemment j'échange pas 10 barils de Police contre un baril de Woolsey, mais bon après
Bah je suis d'accord avec toi, mais je pense que la plupart des gens sont, mais moi je suis à 100% d'accord avec toi. Mais je veux dire, parce que l'influence de Police est évidente sur, sur cet album Bopper en larmes. Mais du dernier album de Police, Synchronicity, celui où j'utilise des lignes drum et des machins,
ouais, ouais.
Il utilise les mêmes boîtes à rythme, on reconnaît les terres. Après qu'on a parlé de Mayenne, il faut qu'on parle de En pas oublié où. C'est de la TR-808, c'est une grosse alu, ça part avec du beat, c'est une espèce de fuite en avant, c'est un peu autoroute, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est de la techno, c'est pas vrai, mais c'est de la musique électronique déjà.
Ouais, bah il y a la structure, il y a l'approche quoi.
Exactement, et il chante dessus en créole, donc je sais pas ce qu'il dit parce que je parle pas créole, mais il dit en pas oublié, donc j'imagine qu'il parle de ses racines, j'ai pas oublié, j'en sais rien en fait. Enfin, c'est de ses racines qu'il connaît pas, il en parle déjà dans Cœur Grenadine.
On racontera tout ça bientôt.
Ah mais ce morceau, c'est une alu. Franchement, on fait ce programme pour vous donner envie d'aller écouter des Sommors. Woolsey, il y en a deux qu'il faut absolument aller écouter, et un des deux, c'est celui-là, En pas oublié où, et l'autre, on en parlera tout à l'heure. C'est les trésors cachés qui sont pas cachés en fait, ils sont en pleine vue, ils sont sur Spotify, etc. Il faut juste taper le nom.
Ouais, mais justement, Woolsey, qui est un mec à single, qui a sorti beaucoup de singles qui ont eu beaucoup de succès, ils ont tendance à masquer un peu le reste, quoi. Et encore plus, moi ça fait pas si longtemps que ça que j'ai vraiment fait la démarche d'écouter tous ces albums en entier, de fond en comble, du début à la fin, d'écouter chaque morceau, et t'as vite fait, il y a tellement de tubes que t'as vite fait d'écouter les best-of, quoi. Parce qu'il y a que des tubes et il y a que des chansons géniales dans le best-of.
Ah, mais le best-of, il est incroyable. Si t'écoutes le best-of, Belle Île en Mer, qui est sorti dans les années 80,
ouais,
qui s'est vendu par camion.
Ouais.
Bon, tu l'écoutes du début à la fin, c'est bon, quoi. C'est comme le best-of des Cures, tu vois ce que je veux dire.
Ouais,
c'est que des bangers.
C'est comme la substance de New Order, quoi. Mais du coup, en fait, et même celui qu'il a sorti il y a pas longtemps, le triple best-of, il n'y a que des chansons géniales dedans, en fait.
Ouais, mais en fait, on peut le prendre par plein d'aspects.
Ouais.
Et ouais, justement, là, on est sur le space. Est-ce qu'on fait un jump dans le temps?
Alors oui, on va faire un petit jump dans le temps, en fait, parce que là, on vous a parlé de ces approches un peu inattendues, dirons-nous, un peu étonnantes, dans les années 70, avant donc le succès de Rock Collection en 77, et on vous racontera l'histoire plus tard. Et dans les années 80, bah, d'où le coup, uniquement dans l'album, enfin principalement, on a parlé un peu de Cœur Grenadine, mais surtout dans l'album Bopper en larmes, parce que donc, pour expliquer la discographie de Woolsey à ce stade, il a sorti des singles, mais que deux albums, en fait. Ouais. 7 ans s'écouleront entre son deuxième et son troisième album, ce qui est quand même beaucoup. Et
après, il disparaît pendant encore 7 ans.
Ouais, même 10 ans, je crois, ou je sais plus.
Ouais, enfin, bref. 10 ans, un truc comme ça.
Ouais.
Il disparaît complètement, il sort des radars.
Il disparaît complètement, ouais. Ouais.
Et en plus, il en a rien à foutre.
Bah, je pense qu'il, dans ces périodes-là, je sais pas exactement ce qu'il fait de sa vie, on sait pas trop, puis ça ne nous regarde pas, mais bon, il compose quand même pour. Il travaille avec Souchon, il fait des trucs.
Ouais, c'est vrai. Il fait des trucs.
Et surtout, en fait, ce qu'il fait principalement, c'est qu'il prend le temps de faire ses disques, quoi. En fait, il met longtemps à faire ses disques parce que c'est comme ça qu'il travaille, en fait.
Il met longtemps
à composer, il met longtemps à enregistrer, il refait 50 fois. Enfin, c'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste du son, de la mélodie.
Il a la maladie du perfectionnisme.
Ouais.
Mais ça s'entend. Quand tu l'écoutes, il y a un côté. Ok, c'est le moment où il va exagérer. il me fait penser à genre Stevie Wonder.
Ouais.
Pour le côté, déjà, je joue beaucoup d'instruments moi-même, machin, etc. Mais il a une vision, des arrangements hyper abusés, en fait.
Ouais.
Franchement, et Stevie Wonder, c'est pareil. Tu sais, il y a jamais rien. Il y a toujours un truc qui se passe. Mais chez Woolsey, mais en fait, ça, c'est dans le cœur des chansons.
Ouais.
Mais ce qui est incroyable, c'est que, et comme Stevie Wonder, souvent après, il aime justement faire durer en instrumental et te faire kiffer sur le groove qui a été créé. Si tu fais abstraction de toute la mélodie, de tout, et il continue, quoi. Après avoir disparu pendant 10 ans et machin, il revient avec l'album Avril.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que après le succès de Recollection, Et l'énorme succès qu'il a eu dans les années 80 avec tous ses singles, enfin avec Belle Île en Mer, et plein d'autres, on en reparlera plus tard. Il était complètement libéré pour donner libre cours à ses envies artistiques. Et du coup, c'est ce qui lui a permis de sortir certaines approches assez détonnantes et inattendues dans un album comme Avril.
Exactement. Mais en fait, même avant, aucune de ces approches n'a jamais été normale. Je veux dire, c'est un mec, il a beau... C'est ça, pour moi, le paradoxe Woolsey, c'est ça qui me fascine chez lui. C'est que c'est un mec qui est fasciné par le single.
Ouais.
Rock Collection, c'est une déclaration d'amour au format single. Mmh. Et qui en même temps ne respecte pas le format single.
Ben oui.
Et en fait, c'est un mec qui est amoureux de la pop, mais qui en même temps, dans ce qu'elle a de plus codifié, mais qui cherche à l'amener ailleurs et plus loin.
Mm.
Et c'est vraiment une histoire de carcan, aimer les carcans, s'en libérer. Franchement, la relation de Woolsey avec la pop, c'est ça l'histoire de sa discographie, quoi.
Bah, en fait, on voulait. Je m'étais demandé si on n'appellerait pas cette série d'émissions Paradoxal System ou quelque chose comme ça.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est marrant qu'il ait fait un morceau qui s'appelle comme ça, parce que c'est vrai, c'est ça.
Ouais.
C'est le Paradoxal System.
Ce qui est intéressant, c'est que Woolsey sort son quatrième album Avril en 2001, donc 24 ans après avoir démarré. Enfin, non, pas 24 ans après avoir démarré sa carrière. 28, 29 ans, 30 ans, enfin, je sais pas, après avoir commencé sa carrière. Et, mais 24 ans après le succès de Recollection, qui est un peu l'an zéro de sa carrière ouais. Connue, quoi.
Donc 24 ans, 4 albums.
4 albums.
Si vous, je sais pas si vous avez fait Maths Sup, Maths Play. Mais c'est. Le gars, il y va à son rythme.
Ouais. Ouais, ouais, complètement. Il y va à son rythme. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Avril sort, il a plus rien à prouver. Il a vraiment plus rien à prouver. Et en même temps, il va quand même faire à la fois dans Avril des tubes pop incroyables, d'une sophistication, j'ai envie de dire, woolsienne, mmh. et aussi des chansons extrêmement bizarres, inattendues, un peu dérangeantes.
Bah, et notamment la dernière de l'album, celle qui clôt l'album,
qui s'appelle à nouveau
I Want You. C'est pour ça, ouais, c'est pour ça, vous comprenez maintenant le fil que j'ai tiré depuis le début. I Want You des Beatles, je pense que ce morceau l'a vraiment traumatisé à mort, et à partir de cet album jusqu'à la fin. Chaque album terminera par un morceau long et instrumental. Mm. C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus il met une petite fin longue et instrumentale à la fin d'une chanson, c'est il met une grosse fin longue et instrumentale à la fin d'un album. Et il commence à faire des morceaux instrumentaux qui durent 7, 8, 10, 13 minutes. Et qui sont tous, s'il faut être honnête, tous, ils ont... peut-être une ou deux minutes qui sont un peu dures à avaler, mais tout le reste, c'est du génie total. Et I Want You, c'est un morceau, enfin, je sais pas comment dire, enfin si, je sais comment dire, c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui, Space Woolsey. C'est le mec qui, après avoir montré tout ce qu'il savait faire comme compositeur de chansons, à la Burt Bacharach, à la plus grande tradition de la chanson pop, Paul McCartney, 2 minutes, 3 minutes 30, couplet, refrain, bridge, refrain. À la fin, il a envie de se chier là et de faire un gros truc chelou, quoi. Il se chier là sur du chelou. C'est Laurent Woolsey. Et le premier morceau d'une série qui va continuer, on va en parler, on va continuer à en parler.
Juste pour décrire I Want You, enfin vous l'entendez du coup, mais elle est Beatlesienne à d'autres égards, parce qu'il y a cette sitar, il y a ce rythme un peu cyclique qui va rappeler certaines expérimentations des Beatles plutôt type comment ça s'appelle déjà ?
Sgt Pepper's.
Ouais, voilà, Sgt Pepper's ou même sur Revolver.
Love You Too.
Ouais. Mais Within You, Without You. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est vraiment un trip avec des paroles. Je suis sûr que si on analyse bien les paroles, je sais pas si on prend la première lettre de chaque mot ou un truc comme ça, il y a un sens caché.
Non, ça se trouve. J'ai pas essayé de le faire. J'aurais dû.
Il faut demander.
J'ai mal préparé cette émission.
Alain Souchon est suffisamment farceur pour avoir pu faire un truc comme ça.
En tout cas, je passerai pas au-dessus de lui.
Alors, dans l'album Avril, il y a une autre chanson moi, qui m'amuse pas mal, c'est Le Capitaine et le Matelot, qui est une nouvelle incursion un peu dub reggae après celle qu'on a pu avoir rapidement dans Bopper en larmes.
Ouais, dans Mayenne.
Dans Mayenne.
Mais ouais, moi je... Ça m'étonne pas que vous le dites, c'est un mec qui écoute du dub.
Ouais, ah bah ça paraît plutôt cohérent avec les musiques qui l'ont influencé en tout cas.
Ouais, ouais, et justement ce qu'on essaie de présenter ce soir, cet aspect de cette musique, on laisse durer les morceaux instrumentalement. Ouais, il faisait du dub en fait, vous le dites, c'est un. Je sais pas, c'est... il m'impressionne énormément par sa capacité à lâcher, à pas avoir peur du vide.
Ouais, complètement. Ouais, ouais. Tout en mettant hyper longtemps à faire ses albums. C'est ça qui est marrant. Mais du coup, le Capitaine et le Matelot, c'est ouais, pareil. C'est un, il y a un travail de son, enfin de sonorité, qui a été fait. Enfin voilà, un gros travail pour donner une sonorité vraiment dub particulière à ce morceau. Alors après, il y a une autre chanson dont on avait envie de parler. Elle figure dans l'album qui suit, qui est un... Est-ce que c'est vraiment un album d'ailleurs ? C'est compliqué.
Recollection. C'est vraiment le mouton noir de sa discographie.
Ouais.
Mais pourtant, c'est un chef-d'œuvre à sa façon. Non, mais c'est l'album dans lequel il fête, ou je sais pas trop. Il refait Rock Collection.
Et du 30 coup, ans après.
Et du coup, il appelle Recollection.
Ouais.
Et donc, c'est un album qui est conçu en grande partie de Recollection.
C'est son album le plus chelou, quand même, on peut le dire.
C'est un des plus bizarres. Mais du coup, il y a peu de musique inédite dessus.
Mm.
Mais par contre, toute la musique inédite dessus, c'est. C'est genre, pour moi, c'est vous lisez à son top niveau.
Ouais.
Et c'est hallucinant, et notamment, et donc il y a ce morceau, là, comme on parle du Space Woolsey, ce morceau qui s'appelle Radio. C'est 1 minute 30 de bruit chelou, où en fait, c'est le morceau où il raconte que. Un jour, soudain, par chance, il a écrit Rock Collection, qui est devenu un tube. En fait, c'est l'album dans lequel il raconte sa vie. Il raconte la façon dont la chanson Rock Collection a raconté sa vie. Et donc, il rechante la chanson Rock Collection dans un geste méta, qui est vraiment bizarre, mais c'est un délire. Enfin, d'ailleurs, l'album, les titres des morceaux, c'est Acte 1, Acte 2, Acte 3.
Mm.
C'est le truc où il raconte sa vie. Et donc, ce morceau Radio, c'est juste un petit morceau de transition de 1 minute 30 entre un morceau d'avant où il raconte son adolescence et Rock Collection, où il re-raconte son adolescence, mais à travers la façon dont il l'avait déjà raconté avant, tu sais, dans une strate différente de la mémoire. Non, tu vois ce que je veux dire, il y a un côté, c'est presque un film d'Alain René.
Ouais.
L'album Recollection.
Ou de Christopher Nolan.
Ouais. Et cette petite transition là, Radio, c'est 1 minute 30 de dinguerie. Quoi.
Ouais.
Mais mets-toi un petit extrait. Adesso. Et sur le même album, un peu plus tard, il y a un morceau qui est complètement instrumental, qui s'appelle ouais. Sous la lune. Franchement, ça ressemble à du Manuel Götling.
Ouh, alors là tu balances des refs.
Qui était un guitariste allemand qui jouait dans Ashra Temple, qui a fait des disques solo et qui est un des mecs qui a conçu la musique répétitive et surtout goudante.
Mm.
Répétitive mais goudante. répétitive, agréable. Franchement, ce morceau, Sous la lune de Laurent Voulzy, pour moi, rentre dans cette même catégorie, quoi.
C'est une catégorie de quoi, tu veux dire de
la musique goudante électronique. Parce que là, c'est un morceau full électronique.
Ouais, ouais.
Là, clairement, il se dit, ok, je vais essayer de faire un morceau de house.
Ouais,
ça pourrait être méga gênant. Tu vois, un boomer... En général, quand un boomer s'essaye l'électronique, ou bien c'est méga gênant, ou bien c'est génial. Et là, c'est génial. Le morceau est vieux, maintenant. Aujourd'hui, on est en 2024, ça a 15 ans.
Mm.
Donc, tu vois... Un vieux qui essaie de coller à son époque, machin, ça aurait pu vraiment très 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 mal vieillir. Et franchement, ça passe de ouf.
Mais je suis pas sûr qu'il ait voulu... je suis pas dans sa tête. je pense pas qu'il ait voulu coller à son époque, justement. En fait, c'est pas comme à la fin des années 70 où t'avais les yéyés qui faisaient du disco, quoi. Là, c'est vraiment... Enfin, même s'il y a des trucs que j'adore dans ces trucs-là, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est juste que comme c'est un gars qui est vraiment... Qui est vraiment passionné de musique, enfin ça paraît con à dire, mais je pense que tous les musiciens sont pas aussi passionnés de musique les uns que les autres, quoi.
Non, mais je suis à fond derrière toi là.
Et lui, pour le coup, je pense que c'est vraiment il est vraiment passionné de ça, nourri de ça, il pense qu'à ça tout le temps, quoi. Et je pense que ça le... Et je pense que c'était... Il a fait ce qu'il avait envie de faire parce que ça l'intéressait, quoi. Je pense pas qu'il se soit dit, tiens, je vais faire un truc parce que c'est à la mode maintenant.
Non, mais c'est sûr que non, ouais. Évidemment. Il a dû se trouver dans une soirée où peut-être quelqu'un lui a fait quelque chose. Il s'est retrouvé à danser sur de la house et il a compris quelque chose, qui machin. Mais en réalité, c'est ce qu'on est. C'est le sujet de cet épisode, Space Woolsey. Si vous réécoutez En Pas Oublié, dont on parlait tout à l'heure, qui était donc 25 ans avant ce morceau-là, il était déjà dans un délire. Il avait déjà compris un truc.
Ouais,
la musique répétitive. Le presque rien sonore, des trucs qui le rapprochent de Brian Eno, tu vois.
Le
côté on laisse durer alors qu'il se passe rien,
ouais.
Ce qu'il faisait déjà dans ses morceaux pop à l'époque. Et là maintenant, c'est les années 2000, voilà, c'est les synthés, etc. Et donc il fait ce morceau sous la lune, où il y a un petit moment relou, avec un rythme relou, un rythme un peu whack dans la première minute, mais genre à partir de 3 minutes, ça part sur une espèce de machin qui a plutôt bien vieilli, enfin, qui a franchement bien vieilli, avec un changement d'accord, un pattern d'accord à la Laurent Voulzy, quoi.
On n'avait pas prévu cet ordre-là, mais en fait, je trouve que un des morceaux qui répond le mieux à Sous la Lune, enfin qui répond assez bien à Sous la Lune, c'est Spirit of Samba 3, qui est sur l'album Rio, qui est son dernier album en date à être sorti.
Ouais, Belém.
Belém, pardon, excuse-moi. Oui, c'est l'album Belém où il y a une chanson qui s'appelle Rio.
Effectivement, Spirit of Samba 3, incroyable. Donc, sur cet album-là, il reprend un peu. Mais d'ailleurs, comme déjà sur l'album dont on vient de parler, il reprend le principe de rock collection, et là il le reprend encore.
Ouais, ouais.
Il fait une espèce de rock collection brésilien où il fait des couplets et sur les refrains il reprend des thèmes brésiliens connus.
Ouais.
Mais sauf que ce morceau est en trois parties.
Ouais.
Et la partie 3, ça part sur une espèce de gros choro électronique. Vas-y, mets-le. Franchement, ça part vénère presque.
Ah ouais, carrément, ouais. Ça part vénère et ça part fort. Hein. C'est un album super intéressant, je trouve, Belém. En fait, j'ai mis longtemps à l'aimer, mais j'ai fini par vraiment l'aimer et notamment parce qu'il est bizarre, quoi. Mmh. Aussi, il est plein de choses, en fait. Belém, il est à la fois... il est beaucoup intimiste, il renvoie à plein de trucs qu'on aime bien chez Woolsey et qu'on connaît, mais il est aussi hyper bizarre par moments. Mais et ouais, surtout sur Spirit of Samba 3, quoi.
Mais justement, parce qu'en fait, Woolsey est toujours bizarre.
Ouais.
Surtout sur la durée d'un album. Il a presque évité le format album pendant plein de temps, mais dès qu'il s'y met, sa bizarrerie ressort.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu sens que c'est quelqu'un que... Quand il fait un single, il fait un single. Quand il fait un album, il fait un album. C'est-à-dire qu'il fait pas un album pour... Il fait pas un album pour mettre 3 ou 4 singles et puis entrecouper 2-3 chansons qui passent. pour porter les singles, quoi. C'est vraiment, il fait un album parce qu'il utilise le format album à chaque fois, quoi.
Mais non, mais justement, c'est en ça qui me fascine,
bah
qu'il,
ouais.
qu'il est, comme tu l'as très hyper bien dit, Paradoxal System. C'est que, genre, ouais, les singles sont les singles, les albums sont les albums, mm. sauf que, en fait, non. Les singles sont pas des singles, ils sortent en maxi.
Ah oui, bien sûr.
Et il y a 10 minutes d'instrumental à la fin.
Et souvent, il y a une deuxième partie.
Ouais, voilà, il y a une deuxième partie. Tu sais, c'est pas du tout commun de faire un single où c'est part 1, part 2. Les mecs qui faisaient ça, c'était genre James Brown.
Ouais.
Ou genre dans le reggae, où t'as la partie 1 sur la face 1 des 45 tours, la partie 2, c'est la version, c'est, la, ouais. c'est l'instru. Et lui, il est ça, il est reggae. Enfin, je sais pas, il a un truc comme ça. vous le dis, vraiment. Mais branché, en fait,
ouais,
à défaut de trouver un autre mot, là, je dirais branché. En fait, ce mec-là a toujours été méga branché sur ce qui se fait de plus intéressant en zik. Il est funkadélique, il est dub, il est tout, quoi.
Ouais, puis il est sans limite et sans frontières.
Mais sauf que lui, son langage, sa culture, c'est la pop blanche.
Mm.
Alors que lui est noir, finalement.
Ouais.
Et en fait, finalement, peut-être que la musique de Voulzy, c'est ça, c'est ce...
Ah bah, c'est l'intersection de plein de choses.
Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur.
On reparlera de Belém juste après, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour par... Par Listen Love.
Ah, effectivement. Quand on a parlé de Belém, on a sauté un album.
Ouais.
Listen Love. En fait, après qu'il a sorti l'album Rock Collection, dans lequel donc il y avait cette tentative house, je me souviens d'une interview où il disait ouais, mais je voudrais faire un album électronique. Et je me souviens des commentaires qui étaient genre vous dites électronique. C'est des mecs qui n'ont rien compris.
Et nous, on sait.
Mais en fait, il a fait son album électronique, mais sauf qu'en fait, il est électronico-moyen-âge. Il est vraiment parti dans un délire hyper bizarre.
Alors, au cinéma, quand on mélange médiéval et techno, en général, ça se finit très mal. ça donne des films... dans le meilleur des cas, ça donne Doomsday de Neil Marshall, qui est déjà un peu genre... Ok, mais...
Non, mais remarque,
pas trop.
Maintenant que tu... J'avais jamais pensé, mais en fait, c'est un... On peut penser à Excalibur de John Boorman.
Ouais.
C'est un peu, tu sais, c'est à la fois Moyen-Âge, mais très années 80. Tu vois
ouais,
ce que
ouais, ouais. Mais oui, non, mais bon, il y a quelques trucs. Mais bon, en tout cas, lui, voilà, il a fait Listen Love, qui est vraiment un album hyper bizarre. Parce que,
hyper bizarre.
Parce que déjà, alors il faut savoir que. Laurent Voulzy est passionné de Moyen-Âge depuis très longtemps. Il est passionné d'histoire, il est passionné de Moyen-Âge. Il dit, lui, qu'il est devenu fan de Moyen-Âge parce que quand sa mère... Enfin, quand il jouait avec des jouets à Châteaufort et tout ça. Bon. Il est devenu vraiment passionné de ça. Il dit que maintenant, j'ai entendu dire plusieurs fois en interview, que maintenant, il écoutait que de la musique médiévale. Il écoute que ça. Il écoute plus que ça. C'est possible. Peut-être qu'il exagère un peu, mais bon, voilà. En tout cas, il dit ça. Et vous le savez peut-être, sûrement, mais il a fait une immense tournée dont j'ai eu l'honneur et le privilège de voir la toute dernière date à Saint-Eustache dans des cathédrales et des églises.
Ouais, ça fait genre 4 ou 5 ans qu'il
ouais,
fait.
Ouais, ça fait longtemps qu'il fait ça. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Ça fait depuis 2017, je crois.
Ouais.
Il me semble, à vérifier. Et
non, mais c'est quand même un truc de ouf.
Ah oui,
on
non,
le redit. Ça fait 7 ans qu'il a pas joué dans une Smack ou un Zénith ou un Bercy.
Ouais.
Si demain il joue à Bercy, c'est bon, il joue à Bercy, il remplit Bercy,
ah
pas
bah
de problème.
Ouais.
Mais non, si il a fait genre la fête de Lima ou le truc comme ça. Mais non, sinon il joue que dans des églises. Quoi.
Ouais.
C'est le frérot est dans son délire, encore une fois.
Ah bah il y va à fond, il a sorti un livre même sur les cathédrales. Enfin, il est vraiment dedans quoi. Et donc en 2011, donc 4 ans après Recollection, il sort Listen Love, qui, bah, comme son nom l'indique, hein, Lys, fleur de Lys, royauté, Moyen-Âge, tout ça, et Love,
l'amour
et puis l'anglicisme, voilà. La modernité, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et en plus, le disque aussi parle beaucoup d'antagonisme entre les Anglais et les Français. Enfin, bon, il y a plein de trucs autour de ça. Et qui est un thème qui revient souvent, d'ailleurs, dans sa discographie. Les scouts pervers de la très vieille Angleterre. Enfin.
Non, mais un album de dingue où, du coup, il dit, voilà, il a envie de faire deux trucs en même temps.
Ouais, ouais, ouais.
Et il fait les deux en même temps.
Il veut
faire un
temps.
Truc électronique et un truc Moyen-Âge. Et donc, le single de l'album que tout le monde connaît, c'est Jeanne.
Ouais.
Vous la connaissez, elle passait sur Chérie FM. Et tout ça.
Mais chanson adorée par Marine Le Pen, ce qui me... à chaque fois que j'entends Jeanne, j'entends Marine Le Pen qui dit oui, j'adore cette chanson. Ouais, ouais, c'est dur.
Ah, j'aurais trop aimé pas savoir ça.
Ouais. Désolé. Et maintenant, tu ne peux pas l'oublier. Oui. Tu peux pas le désavoir. J'avais très peur de la croiser au concert à Saint-Eustache.
Il faut beaucoup que je boive pour l'oublier.
Ouais, désolé. Non, mais attends, cette histoire de Marine Le Pen, ça m'a vraiment mis en bad. Et en plus, surtout que, tu sais, comme il adore le Moyen-Âge, les églises, les trucs comme ça, et que, bon, évidemment, il a beaucoup parlé de comment il a souffert du racisme et de ses racines noires et tout ça. Donc, on n'imagine pas un seul instant que Laurent Voulzy puisse être un mec, tu vois, qui s'acoquinerait d'extrême droite ou quoi que ce soit.
Impossible.
Mais avec son délire Moyen-Âge, vieille France et tout, et de savoir que Marine Le Pen l'aime à cause de ça. Ah, c'est très désagréable.
Non, mais, ouais.
C'est très 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 désagréable.
Ouais, c'est horrible.
Bref, donc ouais, Jeanne, drôle de chanson d'ailleurs, hein, qui raconte une espèce de, en plus de fascination pour Jeanne d'Arc, d'où Marine Le Pen. Bref, vous avez compris, vous avez fait le, si vous connaissez un petit peu la politique et le symbole qu'est Jeanne d'Arc pour l'extrême droite, vous avez compris l'idée.
Ouais. Alors que Jeanne d'Arc est un symbole énorme bien avant. Enfin.
Bah oui, bien sûr.
Je veux dire, c'est.
On n'a pas
c'est,
attendu.
C'est, si on aime Dreyer, si on aime.
Luc Besson.
Mais tu sais quoi? En vrai, le Jeanne d'Arc de Luc Besson, c'est le seul film de Luc Besson que j'aime vraiment. Quoi.
Bah voilà.
C'est un vrai bon film.
Comme quoi. Hein. Et donc, histoire d'amour à travers les siècles. Je trouve ça marrant cette idée de. Alors, c'est Jeanne d'Arc sans être Jeanne d'Arc dans la chanson, mais je trouve ça marrant cette histoire d'amour à travers les siècles, en fait. De fixer son attention et son amour pour une personne à plusieurs siècles d'intervalle, ça.
Oui, c'est ça dont parle le disque, en fait.
Ouais.
C'est pour ça qu'on écoute le morceau, effectivement, sur Chérie FM. On le trouve bizarre et tout, mais bon, bah, malgré tout.
Mais on le trouve pas bizarre, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on l'écoute et puis à un moment on dit. Il y a du vocodeur. c'est très tu sais, il y a les cordes, il y a la mélodie, c'est très habituel. Et d'un coup, il y a un truc genre bizarre. Il y a beaucoup de trucs très étranges dans Listen Love, et le plus étrange de tous, c'est quand même la 9e croisade.
Ouais, encore une fois, l'album termine par un dernier morceau qui dure genre 13 minutes de long et qui part dans tous les sens. Ah ouais, non, putain, la 9e croisade.
Où Woolsey chante et récite un poète perse ou arabe, je sais plus. Entre autres, enfin, du coup, la 9e croisade, c'est donc si vous êtes calé en croisade, c'est pas mon cas personnellement, mais donc il y a eu la 9e croisade, c'est celle qui n'a pas eu lieu, c'est la croisade de l'amour, celle de la réconciliation et où l'Orient et l'Occident se tombent dans les bras.
Ouais, voilà.
On l'attend encore.
Bah ouais, justement. Lui, il y croit et il le met en musique. Enfin, je sais pas.
Ouais.
C'est beau.
Ouais. Mais en fait, c'est vraiment, comme tu disais, ça fait du bien aussi, quoi.
Bah ouais, on a besoin de Laurent Voulzy.
On a besoin
de mecs comme Laurent Voulzy.
Ouais, ouais.
Il y en a pas assez.
Et donc voilà, donc le Listen Love, album très étrange. On reparlera de certaines chansons plus spécifiquement dans d'autres parties.
Et donc ce morceau-là, la 9e croisade, méga Space Voulzy. On sent qu'il est inspiré, je pense, par Peter Gabriel, était son label de world music, comme on le disait à l'époque, et comme on le dit plus, et peut-être c'est une bonne chose.
Ouais, je pense que c'est une bonne chose.
Mais
d'abord, ça n'existe plus.
Ouais, world music. Mais tant mieux.
Oui, oui, oui.
Mais en même temps, tant mieux qu'à un certain moment, il y a eu des mecs qui.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, qui sont intéressés à ça. Et je. Enfin. Vous le dites, c'est un mec qui porte ses influences sur ses. Tatoué sur ses avant-bras, comme un chef de cuisine. Et voilà. Ce morceau, La Deuxième Croisade, moi, pour moi, il est très Peter Gabriel et son label Real World.
Ouais.
Tu sais, genre, je m'intéresse à la musique du monde, machin. Ouais. Mais c'est bien fait, comme. C'est bien. Ça pourrait être cheesy, ça pourrait être pourri, mais ça l'est pas. Parce qu'encore une fois, pour moi, vous le dites, c'est un mec. Voilà, il a bon goût, il aime la musique, il a du cœur. Mm. Tout ce qu'il fait, c'est bien parce que c'est lui, quoi. Parce que c'est un vrai gars.
Ouais. Bah, parce que c'est fait avec une sincérité évidente et forte, quoi.
Ouais, et en plus, mais surtout avec cette espèce d'impression qu'il le fait vraiment pour lui.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à la fois, il sait faire un tube et être numéro un pour le temps d'un single, mais si tu lui files un album. Il va vraiment partir dans ses délires à lui, quoi.
Ouais. Ah bah ouais, il fait ce qu'il a envie de faire, quoi.
Tous ses albums terminent par un truc hyper long.
Ouais.
On l'a vu, I Want You, enfin, tous les... Genre, les quatre derniers albums terminent par un morceau long et instru. Donc ce truc qui au début était une petite tendance est devenu à la fin un systématisme. Il nous laisse à la fin de l'album sur 10 minutes de presque rien musical. Et en fait, moins il y en a et plus on kiffe. Et sur son tout dernier album, Belém, le dernier morceau s'appelle Quand le soleil se couche. Il est annoncé à 12 minutes, je crois, de long, un truc comme ça.
Ah, je sais plus, ouais, je crois, ouais.
Et en fait, en réalité, il dure 3 minutes.
Ouais.
Et à la fin, il y a le bruit de la mer.
Ouais.
Et pendant 9 minutes, il y a le bruit de la mer. Et pour l'instant, c'est la dernière chanson du dernier album qu'a sorti.
C'est génial. Je trouve ça incroyable.
C'est sur ça qu'il nous laisse, sur le bruit de la mer. Je pense qu'on devrait terminer cette émission sur ça aussi.
C'est ce qu'on va faire. Eh ben, merci à toi.
Bah, merci à Laurent, surtout.
Merci Laurent, merci Alain. On n'a pas encore trop parlé de Alain, on en parlera beaucoup, beaucoup plus dans les deux prochains épisodes.
Ouais, j'espère qu'on vous a donné envie d'écouter les épisodes d'après. Ça a été difficile de ranger les morceaux qu'on aime bien en trois épisodes différents. J'ai l'impression qu'on a un peu débordé parfois, mais j'espère que...
Ça va, franchement ça va. Et pour rien vous cacher, on a fait le choix volontaire aussi de commencer par d'abord vous parler peut-être de la facette la moins connue et celle qui a le plus besoin d'être mise en avant de sa personnalité musicale.
Ouais, dans l'épisode 2, on va parler des années 80,
ouais.
Ce qui est vraiment sa période prodige où il a sorti encore que des singles et chacun de ses singles, c'est un énorme tube. Mais remis dans le contexte qu'on a essayé de poser, ça va peut-être. Enfin, je sais pas.
Ça donnera peut-être une coloration, une couleur différente, et une approche différente.
Ah, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. On essaye de vous faire aimer Woolsey autant que nous on l'aime. On y va avec nos gros sabots.
Ouais.
On met pas de gants. Je me rends bien compte, je pense qu'en réécoutant, on se rend compte que très souvent l'émission, c'était nous en train de dire « Ah ouais !» Ah ouais. Parce, voilà, j'espère qu'on a réussi à vous faire « Ah ouais !» autant que nous « Ah ouais !» quand on écoute vous le dire.
Et puis, bah, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode années 80, où vous serez sûrement un peu plus en terre inconnue.
Et pourtant, vous serez encore étonné par certains trucs.
Allez, à bientôt, portez-vous bien.
Bisous.